L'insomnie, c'est tout simplement le mal du siècle.
Le mal du siècle, dit-on, les douleurs du dos, une vérité.
Je la bougeotte, ce nouveau mal du siècle, point d'interrogation.
Ah, le mal du siècle. Si on collectionnait les exemples dans les médias, on aurait des albums Panini entiers.
Il y a bien un mal du siècle, et bien c'est le stress.
Surexposition des enfants aux écrans, le mal du siècle.
Dans la collection, il y a un petit nouveau, ou plutôt un grand nouveau.
Tantôt vous parliez de l'éco-anxiété, c'est un peu le nouveau mal du siècle.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches, c'est une expression belge. Un peu dégoûtante, un peu film d'horreur. Celui qui dit « Après moi, les mouches » dit qu'il s'en fiche, en fait, de ce qui vient après. Le climat, les suivants. Ce podcast va écouter les suivants. Les jeunes Européens qui devront gérer la Terre, notre cocon qui prend l'eau. Dans ce nouvel épisode, je me suis demandé ce que c'est cette éco-anxiété dont on parle de plus en plus. Moi, j'avais entendu que c'était une anxiété liée au changement climatique, de plus en plus répandue aussi et qui touche surtout les jeunes. Mais j'en savais pas beaucoup plus.
Est-ce que c'est un quartier qui a été inondé ici ?
Totalement, jusqu'à du pont là, jusqu'à ici devant le quartier. On l'a vu totalement, mes deux enfants et moi-même, on l'a vu.
J'ai croisé cette jeune femme au centre de Verviers. C'est l'une des communes qui avait été inondée cet été en Wallonie. Elle traversait le pont de la Vesdre avec une amie. Elle m'explique qu'encore maintenant, elles sont en stress.
Totalement. Tous les jours soirs, on regarde la Vesdre et on se dit est-ce qu'elle va pouvoir se relever ou pas, ou quoi que ce soit. Ouais, non, ça fait très peur.
Mes parents, ma mère, mon frère, mon père, mon fils, et ils ont peur.
Tout le temps en train d'y penser.
Oui. Ma mère, elle a peur qu'un jour ou l'autre, elle soit inondée chez elle et qu'elle ne sache pas s'en sortir.
Dès qu'il fait gris ici à Verviers, parce que c'est comme ça que ça a commencé, j'ai peur, ouais. Le climat, en réalité, on sait bien qu'il va... Ça va recommencer. On le sait. Tôt ou tard, ça recommencera. Ça ne s'arrêtera pas.
It's a big shift, it's a big shift.
Nos adentramos en la globalización. Menos flora y más deforestación. Animales...
À Verviers, on craint la pluie, mais ces adolescents de Californie et d'Espagne chantent que eux craignent le soleil à cause des sécheresses et des incendies qui se multiplient chez eux. Ce sont des élèves d'écoles jumelées à des milliers de kilomètres de distance, mais ils ont composé ce rap ensemble parce qu'ils sont préoccupés de la même façon. Jusqu'où peut aller cette anxiété? Et puis comment on la gère pour pas qu'elle prenne toute la place? Comment on fait pour qu'elle donne plutôt de l'énergie pour bouger ou pour, par exemple, écrire une chanson comme celle-là qui fait le tour du monde ou autre chose?
It's a big shift.
C'est au deuxième.
Le parcours de Pauline Cavenel m'a donné quelques réponses. Alors ce sont les siennes, mais elles pourraient nous servir aussi. Elle a 24 ans et son petit appartement cache quelques surprises gluantes.
C'est une poubelle végétale en fait, un lombricomposteur d'appartement. Ça nous permet de jeter nos déchets végétaux. Et la deuxième chose hyper importante à insérer, c'est tout ce qui est boîte d'œufs, carton, donc quelque chose qui va être très azoté, qui va aider les lombrics, donc des petits vers.
Dans votre poubelle à tiroirs, il y a des petits vers.
Il y a des petits vers, il y en a vraiment beaucoup, et d'ailleurs de plus en plus. Alors est-ce que tu les vois? Je vais peut-être touiller un peu, comme ça tu pourras leur dire bonjour.
Avec plaisir.
Alors, hello. Coucou.
Ah oui, oui, vraiment.
Ouais, là, ça grouille pas mal.
Ça, c'est du lombric, ça.
Ça, c'est du bon lombric. En fait, ça s'appelle des vers de fumier, ça c'est le terme un peu plus scientifique. Et ils mangent la moisissure qui se forme autour des épluchures de légumes et de fruits. Et après, ça donne ce thé de compost qui fait un super engrais pour nos plantes. Il y a pas mal de plantes dans cet appartement. Pas assez à mon goût, mais...
On est prêts ?
Ouais, c'est parti. Je propose qu'on aille par là.
Par là, c'est vers un parc. Pauline m'explique qu'elle évite les endroits trop sales, trop bruyants. Et puis tout à coup, elle s'interrompt et je la vois se pencher pour ramasser quelque chose.
Les déchets que je vois sur mon passage.
Toujours ?
Toujours, toujours. Je pars du principe que si je vois un déchet, ça devient le mien.
Direction poubelle.
Direction poubelle. Aujourd'hui, c'est important de faire partie de la solution et pas faire partie du problème. Tous ces petits actes au quotidien, ça fait que tu te sens mieux. Tu te sens plus aligné avec tes émotions, tes valeurs.
Elle me dit qu'il y a quelques années, elle se mettait encore plus la pression pour faire tous les petits gestes possibles et qu'elle était assez en colère contre ceux qui faisaient rien. Enfin, ça, c'est quand même encore un peu le cas.
Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait la paix avec le fait que, même si les actions individuelles, elles sont importantes pour faire bouger le monde et pour se sentir mieux personnellement, c'est pas forcément ça qui va complètement changer les choses. Au début, par contre, j'étais beaucoup plus en colère contre les gens qui ne font rien. Tous les gens qui ont l'opportunité, qui ont les informations, qui en ont l'argent, parce que c'est eux qui influencent le système de consommation un maximum. Quand on a de l'argent, quand on a une maison qui est payée, ne pas penser à comment on consomme et comment ça peut impacter la vie de nos enfants et de nos petits-enfants, je trouve ça vraiment intolérable. Ça génère beaucoup d'angoisse, de frustration et de la tristesse aussi, parce que c'est un peu un sentiment d'injustice de dire « bah oui, moi, je peux peut-être pas être capable d'acheter un appartement, de voyager autant, alors que la génération de mes parents, ils l'ont fait et ils le font en toute impunité, sans penser au futur, quoi. » C'est une génération qui a eu progressivement des privilèges qui ne les a pas remis en question. Je pense par exemple à la génération de ma grand-mère. Oui, évidemment, aujourd'hui, ne pas utiliser de plastique, c'est le cas de ses soucis. Elle a vécu la guerre, elle était toute petite, elle a dû faire attention à sa consommation. Le jour où elle pouvait avoir de la viande tous les jours, elle ne s'est pas posé la question du problème parce que ça a été un manque pendant très longtemps. Par contre, la génération de nos parents, je trouve qu'ils n'ont pas d'excuses.
C'est ceux qui ont quel âge, ça, maintenant ?
Je pense qu'au-delà de 45 ans, jusqu'à 60-65 ans, c'est une génération qui a le pouvoir d'achat de faire quelque chose et qui, en fait, en grande majorité, ne le fait pas. C'est très frustrant. C'est même de la colère aussi, je dirais. C'est un manque d'altruisme.
Frustration, inquiétude, colère, tristesse. Je me dis qu'il y a de plus en plus de nuages gris dans cette conversation. Pauline m'a expliqué que ces émotions négatives étaient arrivées à des sommets pendant les confinements, parce qu'elle lisait plein d'infos, elle regardait des vidéos de conférences qui parfois la faisaient pleurer en se disant que tout était foutu. Elle était en boucle dans sa tête. Alors, pour se sentir mieux, elle parle maintenant avec d'autres jeunes éco-anxieux une fois par mois dans un groupe de parole. Et puis, il y a aussi une pensée qui lui a fait du bien. Elle ne pense plus qu'on pourrait aller dans le mur, mais qu'on y va certainement et que ça va aller quand même en se préparant. Par exemple, en renforçant les relations, l'entraide qui est puissante quand il y a une épreuve. Cette certitude de Pauline, elle est partagée par d'autres et elle a un nom, la collapsologie.
Cette acceptation m'a permis d'avancer vers quelque chose de plus serein. L'effondrement, c'est pas forcément quelque chose de négatif, au contraire. Moi, j'y vois plutôt un phénomène où le système est obligé de changer pour pouvoir avancer, continuer de vivre. J'y vois aussi une remise en question complète de nos institutions, de nos modes de vie, de nos gouvernements. Et puis peut-être une manière un peu plus naturelle ou instinctive de vivre. Des choses vont changer, mais on va avoir le temps de voir les choses venir. On va avoir le temps de construire des outils et des mécanismes qui font qu'on est plus prêt face à ces changements. On est d'ailleurs en train de le faire déjà dans certains cas. En acceptant que le monde va changer, en profitant de la vie et de l'instant présent, et en étant consciente que je fais ma part, c'est comme ça que j'arrive à avoir un équilibre mental.
En repartant, j'ai appelé Alexandre Héron. Il mène des recherches sur l'éco-anxiété à la faculté de psychologie de l'UC Louvain. Il dit que 11% des personnes que son équipe a interrogées en Europe et en Afrique disent souffrir fortement d'anxiété à cause du changement climatique. Les moins de 40 ans sont particulièrement touchés. Il dit que dans ce cas-là, il faut se faire aider. Par exemple ici. J'avais envie de passer par cette maison parce que sous son toit de panneaux solaires, il y a un couple assez intéressant, assez complémentaire. Lui, il produit des informations alarmantes sur le climat. Et elle aide à bien vivre avec ces informations. Lui, c'est un climatologue renommé, Jean-Pascal Van Ieperzeel. Et elle est psychologue écothérapeute, Martine Capron.
Bonjour Madame Capron.
Qu'est-ce qui vous...
Elle a enfilé ses bottines et moi aussi.
Je vous emmène dans le fond du jardin. Là où je vais souvent avec mes patients, parce que c'est un endroit un peu à l'écart et on est vraiment entouré d'arbres. Il y a les bruits de la nature, on peut s'y poser. C'est important pour les personnes qui sont inquiètes, qui sont angoissées, de pouvoir d'abord commencer par se poser et respirer. C'est la première chose que je les invite à faire. que le chemin est ici. Vous voyez, c'est un petit cercle au milieu des arbres. Là, il y a le petit potager que j'ai construit. Beaucoup de gens souffrent d'être hors sol, hein, comme on dit. Il faut aller rechercher en soi toutes ces sensations, ces émotions, laisser revenir les images, les souvenirs de l'enfance. On a tous des beaux souvenirs d'enfance dans la nature, hein, et tout ça nous nourrit. Il faut retrouver ça. Et donc, le faire dehors, dans la nature, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus fort que de le faire à l'intérieur, dans mon cabinet. Voilà. Ça, c'est la petite mare, ici, avec les grenouilles. Il y a plein de grenouilles qui viennent. L'éco-anxiété, c'est une émotion, un sentiment tout à fait sain et légitime. C'est un grand sentiment d'inquiétude, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut savoir qu'une émotion, c'est aussi un signal d'alerte de notre organisme pour nous mettre en mouvement. C'est légitime et c'est important de vivre ça. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont tellement dedans qu'elles ne peuvent plus en sortir. Et alors, elles deviennent très, très angoissées. Elles peuvent avoir des insomnies, devenir déprimées. Et alors là, elles ont besoin d'aide. Ils sont complètement dans leur mental. Ils sont envahis par toutes les informations et ils tournent en rond dans leur tête. Et ils ne sont plus en contact avec leur corps. Ils ne retrouvent plus le bonheur d'être en vie dans leur corps, dans leur trip, dans leur cœur aussi. Retrouver aussi la joie d'être en vie, d'aimer, d'être aimé, de s'aimer soi aussi.
Si vous aviez un conseil à donner aux enfants, aux adolescents, aux adultes, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Deux choses vraiment importantes, c'est de ne pas rester seul, d'aller en parler avec les autres, ne pas avoir peur de parler des choses difficiles, ça c'est très important. Et puis aussi d'être un maximum dehors, en contact avec les éléments.
Pleine fleur, hein, qui vient de s'avancer. Martine Capron m'invite à entrer dans la maison. Mes bottines sont pleines de boue du jardin, alors je les enlève. Et du coup, je fais pour la première fois une interview en chaussettes avec des dessins de citron. Mais écoutez, Jean-Pascal Vanipersé, il m'a vite fait oublier mes pieds.
Vous qui êtes l'une des personnes peut-être les plus conscientes de l'état du climat, voilà, vous rédigez ces rapports du GIEC, vous sonnez l'alarme depuis 30 ans. Comment est-ce que vous faites pour garder le moral?
Bon, parfois je me le demande, mais c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. C'est en partie une question de personnalité. Je suis plutôt d'un naturel optimiste, mais surtout, je suis convaincu qu'on peut influencer les choses, on peut agir. Je pense que tout le monde a ce pouvoir d'interpeller des décideurs politiques, des acteurs économiques, l'endroit où on travaille, et que ce pouvoir-là, s'il était utilisé massivement, il pourrait changer de manière extraordinaire la manière dont le monde fonctionne. Un élément important pour ne pas se décourager, c'est de ne pas rester seul dans son malaise, dans son anxiété. Si on travaille avec d'autres, on peut trouver des manières de faire bouger les choses, parfois à très grande échelle. Regardez ce que les jeunes ont fait en 2019, avant les élections européennes de 2019, avec l'inspiration de Greta Thunberg en Belgique, d'Hanouna de Wever, Adélaïde Charrier, Kira Gantois, etc., qui ont mis en route un mouvement de centaines de milliers de jeunes dans le monde, qui a eu une influence extraordinaire au niveau européen, si on prend un peu de recul. Parce que je suis convaincu que c'est grâce à cela que le programme de la présidente actuelle de la Commission, Ursula von der Leyen, qui au départ était plutôt une dirigeante politique conservatrice, a été tellement teintée de vert, d'environnement, de volonté de décarboner l'économie européenne, etc. Je ne pense pas que ça se serait passé aussi vite, avec une telle différence par rapport à la Commission précédente, s'il n'y avait pas eu tous ces jeunes et tous ces citoyens aussi, mais beaucoup de jeunes, dans la rue. On peut mettre facilement dans un tiroir un rapport du GIEC après l'avoir reçu devant les photographes. Quand on est un décideur ou une décideuse politique, c'est beaucoup plus difficile de mettre le regard d'un jeune ou d'une jeune qui vous interpelle dans le même tiroir.
Il en est convaincu. Les jeunes que l'anxiété a poussés à manifester ont contribué à faire naître le Green Deal, les nouvelles lois européennes pour le climat. Tout ça m'a fait réfléchir à mes gestes, à moi. Mais est-ce que je serais capable d'aller jusqu'au petit verre d'appartement ? Pas sûr. Après nous, les mouches, après nous, le déluge. C'était un podcast RTBF Euranet Plus, réalisé par
Myriam Ball
et Christophe Bernard. Une série à découvrir sur Ovio, rtbf.be ou votre plateforme de podcast préférée. Après nous,
comprendre l'Europe avec Euronet Plus, le premier réseau d'information européenne.